On est prêt. Attention. Moteur.
Go.
Action.
Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer, et bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Et c'est un nouvel épisode hors série que l'on vous propose. Pendant une heure, on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur de la carrière de Mylène Farmer au cinéma. Et croyez-moi, eux, ils vont faire leur cinéma pendant tout ce hors-série.
Ah,
c'est la team Histoire 2, salut à tous.
Salut. Bonjour à tous.
S'il devait faire du cinéma, il serait très certainement dans un film racontant les divas de la pop, où il incarnerait peut-être lui-même Taylor Swift ou le fils de Madonna, pourquoi pas.
Ou mon propre rôle dans Star Is Born.
Salut Tim, bonjour à tous.
Il fait tellement de vélo que lui pourrait bien faire le biopic de Raymond Poulidor.
Je suis en plein entraînement.
Salut Bastien,
bonjour à tous.
Et je sais dans quel film serait Ludo. Vous avez deviné?
Ah, je pense savoir.
Bah, dans Spice World, évidemment.
On les a perdus. Bastien, on les a perdus.
Ils m'ont perdu. Moi.
Bonjour à tous.
Moi, je l'imagine très très bien dans une adaptation d'un des romans de la grande et regrettée Agatha Christie. Salut.
Ah, j'adore l'idée. Salut Sylvain. Bonjour à tous. Un remake de Miss Marple, évidemment.
Évidemment.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On vous partage plein de vidéos, plein de photos. Et vous serez tenus au courant des prochains épisodes. C'est le même nom partout. Histoire de MF. Histoire.
Avec un S.
J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages sur les réseaux. On les lit tous. Alors merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous retrouverez sur notre site Histoire de MF.com tous les liens pour nous écouter, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres. Et sur Apple Podcasts, profitez-en pour nous mettre quelques jolies notes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Comme sur Allo Ciné.
5 étoiles.
J'ai tout dit. Alors on commence tout de suite. Voici l'épisode hors série Histoire 2, Mylène Farmer au cinéma.
Tu peux monter Histoire 2? T'as encore pas dehors. Histoire 2. Ça, c'est la faute à cette salope qui a soufflé les cierges.
Ça donne le ton, hein.
Ben justement, on va reprendre le ton un petit peu de l'émission. Avant de vous raconter Mylène Farmer au cinéma, Bastien, on va revenir un peu en arrière. Et ça commence quand, Mylène Farmer et le cinéma?
Mylène Farmer et le cinéma, ça commence très tôt, même bien plus tôt que la musique. En 1979, la jeune Mylène quitte son lycée alors qu'elle est en terminale pour s'inscrire au Cours Florent, la célèbre école de théâtre parisienne. Elle va y rester 3 ans pour se perfectionner dans l'art de la comédie. Dans sa promotion, des acteurs, des personnalités que vous connaissez sûrement, Vincent Lindon, Anne Roumanoff, Thierry Mugler et Isabelle Nanty.
Ah, ça va, ouais.
Cette dernière revenait sur ses années au Cours Florent dans l'émission L'équipe est sauvage sur Europe 1, présentée par Mathieu Noël. C'était le 8 janvier dernier.
Vous avez raconté qu'elle a même joué Zézette dans Le Père Noël est une ordure.
Ouais. Alors, parce qu'on devait faire des ateliers où on montait des pièces en entier et... Je l'ai vue dans Zézette.
Juste sur Mylène Farmer, elle a cette image de mystère. Est-ce qu'elle était comme ça déjà jeune dans les Cours Florent ou pas du tout? C'était quelqu'un.
Elle
de...
était plutôt timide, mais elle est simple en fait, Mylène Farmer.
En fait, elle est simple. C'est un personnage qu'elle s'est construit, quoi.
Ben, je crois pas qu'elle a construit. Elle est... Il y a une timidité, je pense,
ah oui,
sincère.
C'est juste sa timidité en fait qui fait qu'elle est mystérieuse.
Je pense, et puis peut-être un besoin de se protéger, mais c'est pas la star égocentrique, ouais. Diva, etc. C'est quelqu'un de très à l'écoute des autres, très intéressé, très, très marrante.
Bon, c'est pas une Roumanoff, quoi.
On est aussi très fan d'Isabelle Nanty.
Oui, oui, oui.
Durant ces années au Cours Florent, Mylène Farmer enchaîne les petits boulots. Elle fait aussi du mannequinat et quelques publicités, comme ce spot pour le loto où Mylène est sur une plage entre copines et part à la rencontre d'un homme un peu bodybuildé pour lui prendre ses mensurations afin de remplir la grille du loto.
Eh bah.
Tout un programme.
Permettez. Biceps 47.
47.
Poignet 18.
18.
Mollet 43.
43.
Et tour de poitrine 139.
Laisse tomber, ça va pas.
Le loto, c'est très amusant d'essayer de gagner gros.
Mais vous le savez, en 83-84, sa carrière prend le tournant que vous connaissez avec sa rencontre avec Laurent Boutonnat. On vous explique tout cela dans notre épisode consacré à l'album Cendre de Lune, épisode 5. Mylène Farmer s'éloigne donc d'une carrière d'actrice pour une carrière de chanteuse, mais accompagnée de Laurent Boutonnat, elle va en fait lier les deux, car vous le savez, le duo impressionne durant les années 80 et le tout début des années 90 par leurs clips qui sont de véritables courts-métrages. Forcément, on interroge souvent la chanteuse sur un futur projet projet cinéma avec Laurent Boutonnat, elle répond à demi-mot que oui, peut-être, qu'il est en cours d'écriture, mais rien de très concret jusqu'à la fin de l'exploitation de l'album L'Autre, où lors d'une interview à Télé 7 Jours en mars 92, elle répond enfin à l'affirmative. Le tournage se déroulera en République tchèque au début de l'année 1993, en pleine exploitation du single Que mon cœur lâche et de la compilation Dance Remixes. Et en janvier 94, une interview de Mylène Farmer paraît dans Studio Magazine avec des photos exclusives du tournage de Giorgino ainsi que son synopsis. Le film est d'abord annoncé pour le mois d'août, il sortira finalement le 5 octobre 1994. Alors vous le savez, j'aime toujours me replonger dans l'époque. Bien sûr, je pourrais vous dire par exemple qu'en 94, c'est l'arrivée de Robert Rue à la tête du Parti communiste français.
Oh, Robert Rue, je ne souviens plus.
Mais puisque c'est une spéciale cinéma, je vais faire un focus sur le cinéma.
Allons-y.
Car cette année 1994, elle est complètement dingue. C'est vraiment l'embouteillage dans les salles obscures. Vous allez voir, le nombre de films cultes est incroyable cette année-là. Vous avez d'abord Le Roi Lion.
Pas mal. Hein.
Bah, oui.
Un Indien dans la ville. Quatre mariages et un enterrement.
Ah, ouais,
Madame Doubtfire. Forrest Gump. The Mask.
Ouais.
Léon de Luc Besson.
Ça commence à faire beaucoup.
Pulp Fiction. Philadelphia. La liste de Schindler. Rasta Rocket. Et La Cité de la Peur.
Ah, oui. J'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quoi, nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Et là, tu nous annonces que pour des problèmes de production, tout va être bruité à la bouche, non, c'est ça?
Oui. Alors, vous comprenez bien que le match, il va être très dur pour Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Alors qu'en vérité, en fait, Giorgino, c'est un peu une version parallèle de la Cité de la Peur au premier degré.
On peut imaginer
c'est
ça comme ça.
C'est un peu le
ça,
village ouais. de la peur. Et on vous en parle tout de suite dans cet épisode hors série.
Merci, Bastien. Tout à l'heure, on vous parlera des collaborations de Mylène Farmer pour des bandes originales de films. Mais tout de suite, c'est la première partie du hors série, les films avec Mylène Farmer.
What if it's pain makes the bird sing?
Mais c'était pas moi, c'était les loups.
Ce n'est plus un hôpital, ici c'est une maison de fous.
Why did you call me Georgina?
Elle a soufflé les cierges, tous les cierges!
Ambiance.
Ah oui.
On va faire un premier tour de table pour savoir ce que ça vous évoque, vous, Mylène Farmer, au cinéma. Je vais commencer par Bastien.
Ça m'a jamais vraiment évoqué quelque chose parce que j'étais trop jeune à l'époque de Giorgino. Quand je suis devenu fan un peu quand j'étais adolescent, j'ai entendu parler de ce film, mais en négatif tout le temps. Et puis il était introuvable.
Oui.
Donc pour moi, c'était un projet assez obscur de sa carrière. Donc je n'ai jamais eu d'image de ce film-là. Pour tout vous dire, je l'ai regardé pour la première fois il y a deux semaines. Donc voilà, je n'avais jamais vu ce film. Je l'ai plus suivi ça vraiment en fin de carrière avec la sortie de Ghostland. Et donc voilà, c'est juste ça que ça m'évoque, Mylène Farmer au cinéma.
Ludo.
Bah moi c'est les chansons qui m'intéressent. Alors du coup je prends Mylène Farmer au cinéma comme une expérience bienvenue, puis comme un rêve réalisé aussi pour elle, parce que vu qu'au départ elle voulait être comédienne hein. Et ce que je peux dire c'est qu'en préparant l'émission, je rentrais dans un univers vers lequel je ne vais jamais, et je crois que j'ai enfin rencontré l'univers de Mylène Farmer au cinéma.
Ah voilà, voilà.
Clément.
Bah moi Mylène au cinéma, ce que ça m'évoque c'est que voilà, c'est sa formation première, son envie première. Et ce qui me fascine finalement c'est que Mylène c'est vraiment une artiste complète, c'est-à-dire qu'elle utilise tous les moyens artistiques qu'elle a à sa disposition pour s'exprimer, donc le cinéma en premier lieu, la musique, et puis depuis il y a eu le dessin, la peinture, et voilà, moi qui suis pas du tout artiste, c'est quelque chose qui me fascine vraiment.
Thibaut.
Et ben quand on a conçu ce podcast et les thèmes dont on allait parler, ben le cinéma il s'est imposé, hein. On s'est dit il faut parler de Giorgino et de Ghostland et prendre le temps de s'arrêter sur ces deux projets. Bon, je vais être honnête, sa carrière d'actrice, c'est pas l'aspect de la carrière de Mylène Farmer qui m'intéresse le plus. J'y ai accordé assez peu d'intérêt, mais en travaillant sur cet épisode et en me replongeant dans les archives, en redécouvrant des choses qu'on abordera dans cet épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Ah, bah oui.
Bah moi j'ai envie de dire que pour moi Mylène Farmer, avec le regard que j'avais déjà en 94 sur elle à travers les clips forcément, parce que ce soit Désenchanté, Sans Contrefaçon, Plus Grandi ou encore Libertine, forcément il y avait Mylène Farmer au cinéma, pour moi il y avait une évidence mais pas une attente. Et effectivement,
sûr, ouais.
En préparant ce podcast, donc comme tous les cinq, je pense qu'on a découvert des choses et on s'est remis à apprécier Mylène Farmer devant la caméra.
Histoire de...
Allez, prenez votre ticket, on va ouvrir la première séance pour vous parler de ce que l'on peut appeler certainement un rendez-vous manqué. Thibault l'aura compris, on va aborder tout de suite Giorgino.
Giorgino, c'est l'histoire de Giorgio Volli, un médecin démobilisé après avoir été gazé sur le champ de bataille au crépuscule de la Première Guerre mondiale en octobre 1918. Mmh. De retour, Giorgio part à la recherche des orphelins, malades mentaux dont il s'occupait avant-guerre. Il retrouve leur trace à Chanteloup, un village perdu du Jura et tenu par des femmes méchantes dont les maris et les fils sont toujours à la guerre, avant de découvrir que tous les enfants sont morts, noyés. La principale suspecte, Catherine, une jeune fille fragile et mystérieuse qu'on ne peut embrasser sans embrasser la folie. Oh,
c'est mais c'est un peu l'histoire du petit Grégory, et puis Mylène Farmer, c'est Muriel Boll, quoi. Non, c'est vrai, je jure, c'est pas moi, c'est les loups.
En plus, c'est dans le Jura, ouais. C'est une rousse.
Bon, on écoute la vraie bande-annonce.
Un lieu étrange.
Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants?
Un terrible secret.
Personne ne sait rien ici.
Une vérité inavouable. Une jeune fille qu'on ne peut embrasser sans embrasser la folie.
C'est le loup. C'est pas de mon enfant. J'ai si peur.
Giorgino, un film de Laurent Moutonna. Avec Jeff Dahlgren dans le rôle de Giorgino et pour la première fois à l'écran, Mylène Farmer. Sorti le 5 octobre.
Un film de Laurent Boutonnat.
Ah là là, j'adore.
Mais faut-il encore présenter Laurent Boutonnat, hein? Pour ça, je vous invite à réécouter tous nos épisodes, quasiment. Mais on a assez peu parlé de Laurent Boutonnat, le réalisateur, hein, celui qui a réalisé son premier film à 17 ans, Balade de la fée conductrice, un film muet tourné en noir et blanc, et qui, 6 ans plus tard, rencontre Mylène Farmer pour réaliser tous les clips de ses 3 premiers albums et le film de sa première tournée. Épisode 2, 3, 5 et 10, toujours disponible.
Histoire de MF.com.
Et ce sont tous ces succès avec Mylène Farmer qui vont permettre à Laurent Boutonnat de monter son premier grand film. Il s'appelle Giorgino. Et ce conte macabre et désespéré, il commence à travailler dessus en 1986 en compagnie de Gilles Laurent. Vous avez déjà entendu ce nom dans le podcast car il a participé à la conception du Tour 89 de Mylène Farmer, ainsi qu'au scénario des clips pourvu qu'elle soit douce et sans logique. C'est fin 92, après l'exploitation de l'album L'Autre, que commence la production du film. On parle d'un budget de 80 millions de francs, soit près de 16 millions d'euros d'aujourd'hui, un gros budget. Le tournage se déroule durant la première moitié de l'année 93 dans les environs de Prague, dans la toute jeune République tchèque qui vient tout juste de prendre son indépendance de l'ancienne Tchécoslovaquie.
Et... ah, c'est une autre époque. Hein.
Initialement chronométré pour durer environ 2 heures, la première version du film, après plus de 9 mois de montage et de post-production, dure plus de 4 heures.
Oh là là.
Après une première projection test au printemps 94, le distributeur demande évidemment à Laurent Boutonnat ainsi qu'à sa fidèle monteuse Agnès Mouchel.
Oui, Agnès Mouchel, on l'adore.
De revoir leur copie. La sortie du film, initialement prévue le 24 août, est décalée au 5 octobre avec une durée définitive de 2h55 afin de ne pas passer le cap psychologique des 3 heures.
Hein. À 2h55, tu y vas.
C'est pas pareil. Hein.
Et pour parler d'Agnès Mouchel, c'est elle qui réceptionnait les bobines à Prague dans les studios de Barrendorf, parallèlement au tournage qui a commencé le 2 janvier. Et elle les dérochait, ça veut dire qu'en gros, elle les lisait, elle prenait ce qu'il y avait de bon à prendre dedans, elle les classait pour organiser le futur montage. Elle avait 80 heures de pellicule.
Wow. Et après plus de 4 millions d'albums vendus, la sortie de Giorgino, le premier film du duo Boutonnat Farmer, est évidemment un tournant dans leur carrière et ils sont attendus à ce tournant, comme il l'expliquait pour l'émission Ciné 6 sur M6 le 2 octobre 1994.
Je crois que c'est pareil pour tout le monde, ou dès qu'on est un peu exposé publiquement ou que ça marche, etc., c'est que forcément le milieu, c'est quoi? C'est quelque chose d'abstrait, hein, de très abstrait. Les médias en général, c'est quelque chose de très abstrait. Alors, il y a des choses qui font mal, qui vous touchent, mais il y a un moment donné, il y a qu'une chose qui compte, mais c'est les gens qui vont voir votre film ou qui achètent votre disque. Il y a que ça qui compte à un moment donné.
Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie vraiment que ça marche, que ce soit un beau film, et puis il y en a d'autres qui, je pense, ne l'acceptent en aucun cas, parce que c'est un projet ambitieux, et je crois qu'on condamne l'ambition en France, définitivement. Quand je parle des gens, je parle pas du public, bien évidemment, qui est vraiment vierge de la profession. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que ça dérange quand on n'est pas justement dans ces sentiers balisés.
On vient d'entendre Mylène Farmer, dont Giorgino est le premier rôle. Mais ce n'est pas elle qui tient celui du film, hein, car le rôle-titre est interprété par Jeff Dahlgren, pour qui Giorgino est également la première expérience cinématographique. Et parmi les fans de Mylène Farmer, c'est un nom connu, hein, puisqu'après Giorgino, il devient un proche de la chanteuse et son guitariste attitré sur les 2 albums et les 2 tournées qui suivront. Anecdote, hein, Petit fun fact.
Ah, anecdote. Ben,
on adore.
Dans une interview parue en 2014, Jeff Dahlgren confie n'avoir jamais réussi à regarder Giorgino en entier.
Ah, eh ben. Bon. Ah, ben, que même à l'avant-première, il n'est pas resté. Quoi.
Mais c'est dommage parce qu'il a une scène absolument brillante, la scène la fin où il sauve Mylène Farmer de l'asile. Oui. Il est excellent dans cette scène.
Pour une première fois, il est assez épatant.
Et on peut saluer l'ensemble des comédiens qui est très bon, puis que Laurent Boutonnat, il a vraiment pris des gens avec qui il voulait travailler et qui collaient à ce qu'il imaginait. Oui. Jean-Pierre Aumont dans le rôle du père qui est excellent.
Ah, oui.
Joss Ackland qui fait l'abbé Glaise. Frances Barber, la gouvernante, qui ressemble à ces figures que Laurent Boutonnat affectionne particulièrement, un peu comme Sophie Tellier.
Oui.
Et la tenancière du bar du village, Louise Fletcher, qui impressionnait tout le monde sur le plateau. Mm-hmm. Oscar de la meilleure actrice en 76 pour Vol au-dessus d'un nid de coucou quand même.
Wow. Ouais. Et Mylène Farmer dans Giorgino, venons-en, elle interprète le rôle de Catherine Degrasse, une femme enfant mutique, un personnage évidemment très similaire à celui de la chanteuse. Et Patrick Poivre d'Arvor l'a questionné à ce sujet la veille de la sortie du film, le 4 octobre 1994 aux 20h de TF1.
Je vais essayer de résumer, je crois que c'est la rencontre avec Laurent Boutonnat qui a été fondamentale pour ma vie, et je le suppose pour la sienne. Et donc c'est là la rencontre d'un univers qui est le même dans le fond, des passions communes, des goûts communs. Et en ce sens, je crois qu'il est normal que ce soit en fait l'aboutissement d'un long travail commun et que l'univers soit finalement proche de l'univers de ses clients.
On peut dire que c'est lui qui a écrit ce film pour vous. Vous l'avez un peu écrit avec lui?
Non, il l'a écrit. Non, c'est lui qui a écrit son scénario avec une autre personne, Gilles Laurent, et il m'a proposé le rôle de Catherine. Maintenant que j'ai pu inspirer un petit peu le personnage de Catherine, peut-être, ça, il faudrait lui demander.
Alors, Giorgino, on l'a tous vu en entier, j'espère. Hein,
bah, oui.
Allez,
oui,
on va faire un tour de table. Qui veut commencer? Bastien.
Comme je vous le disais en introduction, j'ai découvert ce film il y a 15 jours, donc c'est assez frais. Quand on lit le synopsis, quand on entend cette bande-annonce, ah bah ça fait envie. Moi, j'ai très envie de voir ce film. Regarder ce film, moi j'ai trouvé ça un peu long, hein, 2h55 c'est encore trop long pour moi pour ce film. Je pense qu'il y a quelques handicaps au film. C'est d'abord, faire un film en VO en 94, c'est pas pareil qu'aujourd'hui en fait. La VO c'était déjà un premier frein, je pense, à l'époque.
Enfin, il était sorti en VF hein, dans les salles.
Oui. Après, l'histoire se passe en France, ils sont français. Moi je trouve ça dommage de pas avoir fait ça en français.
Avec des acteurs anglo-saxons qui en fait donnent plus une touche britannique. Oui. Au personnage, à l'histoire, qu'une touche française. Ouais.
Pour moi, c'est un film d'ambiance, en fait. Mais c'est une longue ambiance de 2h55. Mon regret, moi, c'est pas d'avoir vu ce film au cinéma, je pense. Parce que tout est magnifique, les images, là, on retrouve tout ce qu'on aime dans Laurent Boutonnat. Mais pour moi, c'est un peu un enchaînement de séquences qui auraient été très bien dans un clip. Des petites séquences de 10 minutes un peu bizarres, etc. Mais sur la longueur de 2h55, moi je m'y perds un peu.
Oui.
Et je pense qu'il y aurait une heure en moins, ça serait beaucoup plus efficace. Cela dit, il y a des choses que j'aime vraiment. Enfin, il y a vraiment une ambiance, la fin elle est très belle. Il y a vraiment, comme je disais, il y a des scènes, c'est vraiment des vrais tableaux. Moi je pense par exemple à la scène finale où ils sont dans l'hôpital. Là, je trouve les couleurs magnifiques.
T'as aimé ou t'as pas aimé, globalement?
Disons que en fait, ça m'a un peu. Je peux ni dire que j'ai aimé ou pas parce que ça m'a perdu en fait. C'est plus ça que je dirais. C'est que ce film m'a perdu.
Ludo.
Moi ce que j'ai adoré dans le film, c'est que c'est un film où tout est composé. La musique, le cadre, les décors, comme on n'en fait plus hors de studio, hein, ça se fait plus ce genre de choses.
Ouais.
La photographie, c'est des tableaux, tu disais, hein, c'est des tableaux. Il y a une vraie ambition artistique dans tous les corps de métier et c'est incroyable et c'est absolument pas rationnel.
Mais c'est l'œuvre d'un artiste. Hein.
Exactement. C'est du Laurent Boutonnat, ça ressemble à rien d'autre, même si on peut trouver il y a des références. Hein, par exemple, au début, il y a La Bonne Sœur, c'est vraiment un plan qui serait dans Les Diables de Ken Russell. Mmh. C'est un film de fou. Fait par un fou, parce que quand même il est scénariste, compositeur, réalisateur, producteur, et dans le Studio Magazine d'octobre 94, il en parle, il disait qu'à force de cette pression-là, il raconte « Mon comportement a changé, je suis devenu incontrôlable, j'avais l'impression d'être fou dans un autre monde. » Il ajoute en plaisantant « J'aurais pu tuer froidement quelqu'un. »
Ah oui.
Personnellement, j'étais passé à côté à cause de sa durée. C'est un film de 3 heures, mais en fait, finalement, il a fait exactement ce qu'il fait dans les clips. Un clip, normalement, c'est quoi? C'est 3-4
minutes. 3-4
minutes. Il en fait 7-15 minutes. Oui. Et ben là, un film qui doit durer entre 1h45 et 2 heures, ben il en fait 3 heures. Mmh. On a chacun notre rythmique et c'est son rythme à lui. Mais je sais pas quoi en penser de sa durée parce qu'il y a une mécanique à ça. C'est-à-dire que je trouve que la dernière heure est très très bien montée.
Ouais.
Et que c'est peut-être parce que c'est très lent avant. Alors est-ce que c'est ça ou pas? C'était un échec commercial, mais ça veut pas dire que c'est un film mauvais ou raté. Mm-hmm. Et l'implication personnelle, je pense qu'elle a été tellement forte, ça a dû être dur après pour lui, et que c'est un film qui vient vraiment du cœur et qui a une liberté. Et c'est la liberté de Laurent Boutonnat. Et l'avoir vu pour préparer ce podcast, ce film, je l'appellerais que c'est une peinture musicale, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé simplement beau et audacieux.
Thibaut, moi je partage pas mal ton avis, Ludovic, parce que Giorgino, pour moi, c'est la synthèse des 10 premières années du duo Farmer-Boutonnat. Je trouve une sorte d'évidence dans son histoire, dans son univers, dans ses personnages. Ils étaient presque obligés de faire ce film-là. Je l'ai vu quand j'avais 14 ans via le RIP Canal+ qui tournait sur Internet. Puis je l'ai vu à 17 ans lors de la sortie du DVD. Puis aujourd'hui à 30 ans pour préparer cet épisode. Et là, cette fois-là, je l'ai totalement redécouvert. Il m'a cueilli d'une certaine façon, vraiment, ouais. Et j'ai été fasciné parce que ce film ne fait aucune concession. Dans le dark, dans la folie, et même dans la durée, en fait.
C'est vrai.
Et le tout avec beaucoup de poésie, comme tu l'as dit, et ça reste un conte, hein, un conte où tout est vain, où il n'y a même pas de fin heureuse, mais c'est un film qui vous bouscule et qui vous laisse surtout pas indifférent. Et je trouve que c'est peut-être ça le plus important.
Oui.
Et puis je vais juste terminer en disant que l'échec de ce film, qui va aussi jusqu'au bout, hein, parce qu'il est énorme en fait, vis-à-vis voilà, de l'implication, etc.
L'échec, il est tout aussi démesuré.
Et bah, il contribue à la légende de film maudit, et pour moi, ça en fait vraiment la clé de voûte de la carrière de Farmer et Boutonnat. Il a été salvateur hein, pour eux parce qu'il les a forcés à tout remettre à plat, à prendre un nouveau départ. Et... Mais bon, ça, on vous en reparlera dans l'épisode de
Métamorphosé.
Bien sûr.
Clément.
Bah, moi, le film, alors, il a quand même existé dans la réalité, on va dire, en 94, parce que je me rappelle de voir l'affiche dans le cinéma où je suis allé voir The Mask. Donc, pas 94. La même
ambiance. Deux salles, deux ambiances.
Voilà. Alors, je n'étais pas allé le voir. Je l'ai vu, moi, le film, à la fin des années 90, en achetant une copie VHS. Je l'avais découvert en VF. Et le film, alors je crois qu'à l'époque, je l'avais regardé en deux fois. J'avais dû scinder en deux visionnages pour prendre le temps de le découvrir. Et j'avais beaucoup aimé. C'est une façon peut-être bizarre de le dire. Est-ce qu'on peut beaucoup aimer ce film tellement, voilà, tellement il est violent, tellement il est triste, tellement il est particulier,
quoi.
Exactement. Je suis rentré dedans, j'ai suivi l'histoire. Alors, l'histoire, elle m'a déboussolé parce que j'étais encore assez jeune quand je l'ai vu, peut-être, je sais pas, du coup, 17-18 ans. Et je ne m'attendais pas à ce que autant de questions soient posées sans qu'on ait les réponses à la fin. Donc, c'est quelque chose auquel j'étais pas habitué. Évidemment, maintenant, étant plus âgé, je vois les choses différemment. Et ce qui est intéressant quand on voit, voilà, Mylène dans le film, c'est que, alors, son jeu est peut-être un petit peu linéaire dans le sens où le personnage est un peu passif sur toute la fin du film. On rappelle qu'elle a été internée, qu'elle s'est pendue, donc
joyeux.
Elle va pas très bien.
Mais on retrouve finalement des aspects des personnages de clips qu'elle a joué, puisqu'elle mène une révolte un petit peu comme dans Désenchanté. Elle regarde son amant mourir un petit peu comme dans Son Logique. Donc voilà, autant de choses qui sont familières. Et voilà, vraiment, comme tu l'as dit, Thibaut, c'est l'aboutissement de toute une imagerie qu'ils ont mis plusieurs années à créer.
Et toi, Sylvain?
Un peu comme Bastien, j'ai découvert ce film, moi, il y a une semaine. Voilà.
Ah, t'es encore dedans, alors.
J'avais jamais franchi le cap et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que depuis 94, depuis qu'il est sorti, on me dit oh là là, 3 heures, Giorgino, c'est pas possible, c'est long, c'est lent, il y a que des plans, c'est un clip, comment on appelle ça, un très long clip. Et ben moi, pourtant, ben je suis vraiment très enthousiaste sur ce film, donc j'encourage tous ceux qui n'ont pas pu le voir à le regarder. Tous les trois, ce que vous avez dit, Thibaut, Clément et Ludo, je me joins à vous.
Ton cœur est à Chanteloup.
Mon cœur est à Chanteloup, exactement.
Je suis quand même très étonné de votre un peu enthousiasme collectif, parce qu'il ressemble pas trop, je pense, à ce qui se ressent de ce film.
Tu veux que j'apporte un bémol? Parce qu'il y a quand même des choses, moi, qui m'ont pas dérangé, mais il y a quand même des choses que j'aime pas trop dans le film. Il y a toutes ces bizarreries. On va parler de la scène dans les sous-sols de l'asile.
Voilà, c'est ça.
Franchement, on s'en passerait bien.
Non, c'est génial.
Il y a des dialogues très curieux, les petits enfants qui veulent regarder le zizi du monsieur et tout ça. Enfin,
c'est des
curiosités dont on se passerait bien.
Moi,
quand
c'est
même
un peu l'espèce de vulgarité qu'on retrouve souvent chez Laurent Boutonnat.
Exactement.
Je vais te rejoindre là-dessus. Tout est tout le temps bizarre, hyper poussé dans le bizarre. C'est trop, en fait, pour moi, et je trouve pas ça crédible du tout. Et en fait, il y a des moments où j'ai des barrières.
Je crois que le film n'est pas fait pour être crédible.
Oui, non,
c'est un conte. Rien qu'une scène, on apprend donc que la guerre est finie. Et là, il faut forcément que la femme qui annonce ça soit un peu.
Elle a un sein qui dépasse quand elle court,
énorme,
et c'est vraiment voulu, quoi. C'est toute la liberté, ouais.
Mais comme Laurent Boutonnat, c'est comme la mère hyper dans le clip de Moi Lolita.
tu vois, moi je vois cette
femme.
Elle
vient de son clou,
elle vient de son clou, oui, voilà. C'est la
descendante. Tout à outrance, en fait.
Oui, mais la mère, c'est un moment dans le clip, tu vois. C'est pas non-stop que cet univers-là, tout le temps, à l'excès, en fait.
Tu étouffes un peu comme Giorgio, voilà. Finalement, qui a plus de souffle.
Tu viens de dire le mot, je crois que c'est ça, c'est l'excès. Le film est dans l'excès, de toute façon. Voilà, il dure 3 heures, 4 heures à la base.
Il est excessif.
Il est excessif.
Il y a pas mal de cynisme aussi, un humour qui lui appartient. Moi, ce film m'a fait rire.
Oui,
moi
aussi, bien
sûr. Typiquement, l'extrait que tu as mis tout à l'heure sur les cierges. Moi, il me fait rire.
Moi, je voudrais souligner aussi qu'il y a une très bonne écriture dans le scénario, dans le sens où, par exemple, je pense à un ressort scénaristique qui est très très bien trouvé. C'est quand Giorgio est étourdi dans la neige et qui se fait traîner par les enfants avec une corde, ça lui laisse une marque au cou. Plus tard dans le film, cette marque au cou, elle trouve tout son sens en créant un quiproquo.
Dans l'asile,
tout ça, c'est très très bien écrit.
Histoire de. On a parlé du parallèle entre les longs clips de Laurent Boutonnat et son très long métrage. Ce parallèle est évident, hein, tant les univers sont proches. Et ça reviendra pas mal hein, dans les critiques de l'époque. Hein. Télérama trouve que Giorgino est une sorte de clip interminable, au scénario inexistant. Tandis que Première écrit, après avoir révolutionné le clip, Laurent Boutonnat devient le premier réalisateur de l'infilmable, rien mais longtemps.
Oh là là. Bah, la formule est chouette, mais waouh.
Ouais, mais c'est dur. Hein.
Les critiques sont globalement assassines hein, sur le film. Je peux encore citer celle du Monde, hein. Giorgino ne mérite ni le mépris ni le désintérêt. Dans ce déferlement d'images, de phobies, de fantasmes, on peut constituer un florilège vénéneux assez beau pour que l'on regrette le film que Giorgino aurait pu être.
C'est assez intelligent.
Oui, ouais. C'est pas mal, ça.
Je ne vous spoil pas en vous disant que le succès ne sera pas au rendez-vous, hein, même si, comme nous l'a dit Bastien au début d'émission, 1994, c'est une grande année pour le cinéma. D'ailleurs, Giorgino sort le même jour qu'un autre film culte, Forrest Gump.
Ouais. C'est dur. Hein.
Mais le film de Laurent Boutonnat sera très loin des 4 millions d'entrée du classique de Robert Zemeckis puisque Giorgino totalise seulement 60 000 entrées. Wow. Dès la première journée d'exploitation, le film se révèle être un échec. L'idée de faire une version plus courte pour sauver les meubles est même évoquée, mais il n'en sera rien. Le film reste seulement 3 semaines à l'affiche. Pourtant, les fans de Mylène Farmer étaient au rendez-vous, hein. En témoigne ce reportage pour le journal du cinéma de Canal+, à la sortie du Gaumont des Champs-Élysées le 5 octobre 1994.
C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de longueur, et c'est vraiment la principale critique que je ferais à ce film, voilà.
Et Farmer en tant qu'actrice ?
Farmer en tant qu'actrice, elle parle pas beaucoup, mais elle joue très bien un peu, elle joue très bien l'autiste, la folle, à la fin du film.
C'est magnifique, allez le voir, c'est indescriptible.
C'est pas le popcorn qu'il faut, c'est les mouchoirs. Mais c'est beau.
Laurent est un génie, Mylène c'est une comédienne, mais née. C'est clair et net, et on attend une nomination au César avec impatience, parce que vraiment, sans parti pris, elle le mérite.
On attend toujours la nomination au César.
On l'attend.
L'échec de Giorgino affecte évidemment énormément Laurent Boutonnat, hein, qui décide de racheter tous les droits du film, qui n'est donc pas exploité en VHS, mais heureusement pour les fans, Giorgino sera diffusé en novembre 1995 sur Canal+, qui avait participé au financement du film. C'est ainsi que des copies s'échangeront entre fans jusqu'à la première moitié des années 2000, comme je vous en ai parlé.
Voilà.
Avant que le sujet Giorgino ne revienne sur le tapis, nous sommes le 16 décembre 2004, lors d'une conférence de presse organisée pour l'annonce de la future résidence à Bercy de Mylène Farmer en janvier 2006.
C'était une histoire assez difficile à vivre, Giorgino. Vu que ce film n'a pas marché du tout. Et à l'époque, bon, comme j'ai été très... Enfin, j'ai presque financé moi-même presque 80% de ce film. Donc il a fallu rebondir. Et j'ai pu récupérer en fait les droits d'exploitation vidéo, etc. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, c'est prendre les droits, les mettre dans un tiroir, le fermer et plus jamais en entendre parler. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est aussi simple que ça. Et peut-être un jour, je le sortirai en DVD, oui. Peut-être après un autre film ou un truc comme ça. Hein ? Voilà.
Ce sera donc chose faite 3 ans plus tard. Giorgino sort enfin en DVD le 5 décembre 2007, agrémenté d'un making-of inédit avec la participation de Mylène Farmer en voix off, qui livre ses souvenirs, enfin ce qui lui reste.
14 ans ont passé. C'est la première fois depuis 14 ans que je redécouvre ce film. L'auteur a dit... On ne peut embrasser Catherine sans embrasser la folie. Inquiétant Paris qui est celui d'interpréter ce rôle pour moi, mon premier rôle. J'ai malgré moi peu de souvenirs du tournage aujourd'hui. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs en général. Il y aurait tant de choses à dire sur Giorgino. Ce fut difficile, parfois douloureux, mais j'aime ce film.
Et le making-of, il est vachement bien, moi, je trouve. On voit beaucoup de choses en plus de voir toute la malice de Laurent Boutonnat à faire son film.
A noter qu'une ultime projection du film est réalisée au Gaumont des Champs-Élysées le 4 décembre 2007 en présence de Laurent Boutonnat, et je crois que Ludovic et Clément y étaient.
Bah oui, ouais, était... il y avait un petit concours qui avait été organisé. Oui, alors à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc fallait s'envoyer des chaînes de mails en fait.
Voilà. C'est ça,
et
ouais.
C'était formidable parce qu'on était invité à l'ultime projection du film, mm-hmm. Point. Et donc surprise, une fois qu'on prend place dans la salle, Laurent Boutonnat arrive pour nous présenter le film
et sa restauration.
Et il nous précise d'ailleurs que la salle où on se trouve est celle dans laquelle avait eu lieu l'avant-première en 94.
Non, mais c'était fort comme moment. C'est là où le film prend tout son sens, c'est-à-dire que c'est un film de cinéma qu'il faut voir au cinéma. Histoire
de... On va évidemment parler de musique, hein, car en plus du film, Laurent Boutonnat a également signé la bande originale de Giorgino. Mais je vais laisser Ludovic en parler.
Je vous disais que la musique, elle était importante dans le film. Gilles Laurent, le co-scénariste, il raconte que pour écrire, ils sont partis d'une musique que Laurent Boutonnat il joue au piano et qu'autour de cette musique, qu'il décrit douloureuse et romantique, donc on peut imaginer que c'est à Catherine, et bien ils ont tout construit. Pour faire la musique, alors en 91, pendant l'enregistrement de L'Autre au Studio Méga, épisode 2, Laurent Boutonnat il croise Yvan Cassar, il est intrigué par ce jeune homme qui utilise beaucoup d'instruments acoustiques et d'orchestre, alors qu'à la fin des années 80 et début 90, on est encore très dans les synthés. Donc ça va le séduire, il va lui proposer de faire l'arrangement des partitions et de diriger l'orchestre philharmonique de Prague, qui jouera donc du coup la bande originale du film. Moi, personnellement, cette musique, je la trouve absolument fabuleuse. Elle est profonde et elle impose un climat et un sentiment. Elle est exactement ce que propose dans le film Laurent Boutonnat, c'est-à-dire que c'est naïf et sombre à la fois.
Quand tu parles de climat, si on écoute juste les toutes premières secondes de la première piste de la BO, on entend le bois des instruments craquer, on entend les mains sur les instruments. Donc en plus, c'est très très vivant.
Fabuleuse prise de son de Thierry Rogène.
Ah oui.
Et pour finir sur Giorgino, en plus d'évoquer sa musique, on peut parler du mixage sonore du film. Vous connaissez Laurent Boutonnat, il adore appuyer ses images par des sons d'ambiance très présents.
Ah ouais,
et pour
ouais.
son film, il va se confronter à des ingénieurs habitués à mixer, j'ouvre des guillemets, des petits films français. Disons-le clairement, ça passe pas du tout entre eux. Laurent Boutonnat se tourne alors vers son ami arrangeur et ingénieur du son, Thierry Rogène.
Dont on vous avait déjà parlé, vous souvenez, dans l'épisode de L'Autre, l'épisode Ainsi soit-je.
Et alors, il faut se replacer dans le contexte de 94. En France, dans les films, il n'y a pas du son partout. C'est le début du 5.1, mais quasi inexistant chez nous. Et Laurent Boutonnat, lui, il veut mixer son film comme un blockbuster, étant très admiratif devant la puissance du son du cinéma américain à cette période. Et c'est finalement ce qui se passe quand on écoute le film. Non seulement on est immergé, mais comme dirait Thierry Rogène, en poussant le trait, on est en 1918 et quand on entend la carriole de Giorgio, on a l'impression que c'est un vaisseau de Star Wars. Et c'est mieux encore quand Giorgio veut offrir aux enfants de l'orphelinat un gros sac de sucre d'orge qu'il fait tomber dans l'escalier quand il apprend qu'ils sont morts. Ça donne souvent une sorte de sursonorisation sur des plans qu'on ferait appartenir à un cinéma d'auteur silencieux. Mmh. Et c'est aussi ça, ces mélanges qui font le charme et la singularité de ce film. Et pour conclure, c'est ce qui fait de Giorgino un film intéressant par sa certaine modernité sonore. Giorgino, c'est un film qui prend le temps de faire et contempler des images, mais c'est un film qui s'écoute aussi.
Ah oui.
Merci beaucoup, Ludo. Histoire de... Vous êtes prêts pour la deuxième séance du jour ?
Oui. Allez, on y va, j'ai mon ticket.
C'est une sorte de bonus que nous offre Mylène Farmer dans ces années 2000. On peut dire, Bastien, qu'elle opère un retour discret dans le monde du cinéma.
Bah oui, parce qu'il va falloir attendre plus de 10 ans après Giorgino pour entendre parler d'un projet cinématographique concernant Mylène Farmer. Et cela va arriver en 2006, la même année que sa série de concerts « Avant que l'ombre » à Bercy. Et on doit ce retour au réalisateur Luc Besson, avec qui elle avait travaillé pour le clip « Que mon cœur lâche », qu'on adore dans les années 90, et qui avait même brièvement un peu travaillé avec lui au tout début de sa carrière. Clément.
On le sait pas beaucoup, mais elle a tourné dans le premier film de Luc Besson en 82, Le Dernier Combat, qui est sorti en 83. Alors la cherchez pas, parce qu'en fait on la voit pas vraiment, elle est figurante mais sous une couverture, on ne voit que ses jambes. Mais c'est sa première expérience sur un plateau de cinéma.
Ah, bah, tu fais bien de le dire, parce que je pensais que c'était une fake news.
On s'est longtemps posé la question et on a eu la réponse, on va dire définitive, parce qu'une photo du tournage montre Mylène effectivement dans cette scène.
Et Luc Besson, réalisateur qu'on présente plus
plus, hein, du Grand Bleu, de Léon, du cinquième élément.
Voilà. Ah bah du coup on le présente.
Donc le retour de, sur grand écran de Mylène Farmer va se faire d'une manière assez originale, car Mylène va en réalité incarner un personnage animé, celui de la princesse Selenia dans la trilogie Arthur et les Minimoys, sortie entre 2006 et 2010. C'est une série de films d'animation imaginée par Luc Besson, qui est en fait à l'origine une série de livres écrits par Luc Besson lui-même et co-écrit avec Céline Garcia. L'histoire est celle d'Arthur, 10 ans, qui vit dans la maison de sa grand-mère. Cette dernière a des problèmes d'argent et un promoteur vient lui proposer de racheter sa maison si elle ne paie pas ses dettes. Le jeune Arthur se souvient alors d'histoires que lui racontait son grand-père qui a mystérieusement disparu. Il existerait un royaume caché dans son jardin, une princesse nommée Selenia et un trésor.
Qu'on m'amène celui qui répond au nom d'Arthur.
Mmh. Un classe.
Mmh, quelconque. Mes hommages, princesse Selenia. Quoi ? D'où il connaît mon nom ?
Il commence donc à enquêter et va finalement rapetisser et se transformer lui-même en Minimoys, qui est un petit mix entre les mini-pousses, un elfe, un farfadé, pour accéder à ce royaume, celui des Minimoys, et il demande de l'aide aux Minimoys pour retrouver le trésor et ainsi sauver leur deux mondes. Et Mylène Farmer avait expliqué pourquoi elle avait suivi le réalisateur dans cette aventure. C'était au micro du journaliste d'RTL, Stéphane Boutsock, dans l'émission Laissez-vous tenter, nous sommes le 1er décembre 2006.
C'était un souhait de ma part que de faire une voix pour un dessin animé. J'adore l'animation et c'est Luc qui est venu à moi et qui m'a proposé donc de faire cette voix pour la princesse Selenia. Il m'a présenté les livres d'Arthur et les Minimoys, mais surtout le décor des miniatures du village des Minimoys, et je suis tombée vraiment, vraiment amoureuse de ce village, de ce travail.
Si vous deviez présenter justement Selenia à une petite fille, un petit garçon ou un spectateur qui va voir le film, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est une princesse qui est émouvante, je crois, qui est drôle parfois, qui est espiègle. C'est une battante, une meneuse, et je crois que toute petite fille, et même plus grande, peut s'identifier à ce personnage.
A noter que pour compléter le casting français des voix, on retrouve Marc Lavoine, Alain Bachung, José Garcia, Dick Rivers, Roth ou encore Stommy Bugsy. Pour la version américaine, c'est Madonna qui donne sa voix à la princesse, enfin juste pour le premier film, hein, je vous rappelle qu'il y en a trois. On retrouve aussi les voix de Jimmy Fallon, Robert De Niro, Snoop Dogg et David Bowie. Le jeune Arthur est joué par le jeune Freddie Highmore, que vous connaissez peut-être aujourd'hui dans la série The Good Doctor, diffusée sur TF1.
Qui a fait Bates Motel surtout, ouais, aussi. Hein.
Alors moi je suis allé, donc moi j'étais en province à Grenoble et la salle était vraiment pleine à craquer, hein, ça c'est mon souvenir.
D'enfants
pas que, hein, un peu comme ce genre de film.
Succès familial.
Qui parle,
ouais,
aux enfants et aussi aux adultes. Mais j'avais passé un très bon moment parce qu'il y a, il y a certaines scènes d'humour, etc. C'était assez bon enfant.
On peut juste souligner la fidélité de Mylène Farmer qui a participé aux trois films.
Oui.
Contrairement à son homologue américaine Madonna qui n'a fait que le premier, qui a été remplacée par Selena Gomez dans les.
Autre ambiance.
Dans les deuxième et troisième volets.
Et on aurait pu apercevoir Mylène dans un autre film, je crois, Bastien. Mais...
Eh ben oui, puisque c'est à la même époque que la sortie des Minimoys qu'on entend parler d'un nouveau projet de film incarné par Mylène Farmer, un projet qui va devenir une véritable arlésienne plusieurs années.
Ça, c'est sûr.
Nous sommes donc en 2006, et alors que Mylène Farmer fait la promotion de son DVD Bercy 2006 et donc du film Arthur et les Minimoys, sur le plateau du JT de TF1, elle en dit un peu plus sur ce projet.
Et avec Luc Besson, il n'est pas impossible que vous continuiez à travailler, mais c'est aussi comme producteur.
Je l'espère. J'ai eu la chance de rencontrer Nathalie Reims, qui est un auteur que vous connaissez également, et qui a écrit ce livre, très 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 beau livre. Très très joli personnage pour moi, qui est le personnage de Tess, c'est l'ombre des autres. Et puis l'ultime cadeau de Noël, c'est un scénario de Claude Berry. Donc j'avoue que je suis comblée, plus un DVD qui a un accueil formidable.
Voilà, donc c'était le JT de Patrick Poivre d'Arvor, diffusé le 12 décembre 2006. Donc on récapitule. Hein. Mylène Farmer serait prochainement à l'affiche d'un film produit par Luc Besson et écrit par Claude Berry, qui serait une adaptation d'un roman de l'écrivain Nathalie Reims. Une histoire ésotérique et paranormale se situant au 19e siècle. Bref, c'est taillé pour Mylène Farmer.
Ah ouais.
Le projet est confirmé par trois fois quelques mois plus tard par Nathalie Reims, elle-même en avril, en août, puis en octobre 2007. Elle annonce même un tournage pour la fin de l'année 2007. Fin de 2007, pas de tournage en vue, ni début 2008. Cependant, Mylène Farmer raconte dans une interview à Paris Match, où elle annonce son Stade de France, hein, vous vous souvenez de cette interview, que le projet est toujours en cours, mais le tournage serait programmé pour la fin 2009, c'est-à-dire juste après sa tournée. Ouais. Et il serait à présent coproduit par Stéphane Sellerier.
Et on apprend fin 2008 le nom du réalisateur du film, Bruno Aveillant, qui a réalisé pour Mylène Farmer les clips de Dégénération et Si j'avais au moins la même année. Donc en 2008, changement de cap. On attend donc la fin 2009 pour le tournage du film. Mais l'année 2009 débute malheureusement avec la disparition de Claude Berry à l'origine du projet. Et fin 2009, toujours pas de tournage. Stéphane Sellerier est désormais seul à la production. On arrive tout doucement à l'année 2010, voire même aller à la fin de l'année 2010. Toujours pas de tournage en vue.
C'est une nouvelle affaire mammouth, ton truc. Hein.
Mylène Farmer sort son album Bleu Noir et le 12 décembre 2010, Laurent Delahousse lui demande où en est ce projet cinématographique.
Dernier mot du cinéma, on en avait parlé la dernière fois, on s'était rencontrés, c'était également sur ce plateau. C'est un projet que vous avez toujours en tête, qui aboutira dans les mois qui viennent.
Je le souhaite. Maintenant, on sait que le cinéma, c'est quelque chose qui est long. Il faut être patient, il faut être confiant. En tout cas, c'est un joli projet, je le pense toujours.
On peut se souvenir aussi que Giorgino, ça a commencé en 86 et qu'il l'a réalisé en 93-94. Donc le cinéma, ça prend vraiment beaucoup de temps.
Donc voilà, on en était en décembre 2010. Puis l'année 2011, Nathalie Reims explique que le film est en financement. L'année 2012 se passe, 2013 aussi. Et là, on comprend bien que le projet est probablement mort. Et Nathalie Reims le confirmera d'ailleurs en 2014. L'ombre des autres, un projet qui vous a tenu en haleine.
Pas loin du monde.
Non, pas du tout.
Même réponse que Thibaut.
Je me souviens juste que avant que L'Ombre à Bercy est sorti en DVD, il y avait juste un making-of qui faisait état.
Qui s'appelait L'Ombre des Autres.
Voilà. Ça devenait presque une blague en fait. À chaque fois qu'on lui demande et on voyait ce projet qui ne voit pas le jour. Je souligne juste que Mylène Farmer, qui est très discrète quand même sur ses projets, en parlait quand même beaucoup. Oui. Et était assez transparente.
Il y avait certainement une raison pour ça. C'est parce que Nathalie Reims le dit, ils sont en recherche de financement.
Oui, vous voulez
faut bien montrer que Mylène Farmer est forcément un produit d'appel, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, bah oui, forcément, quand tu en parles, ça te donne peut-être un intérêt.
Créer le hype sur le truc, qui n'a jamais été créé.
Alors moi, qui n'avais pas vécu Giorgino, et je vous ai dit, ça n'évoquait rien pour le cinéma, bah moi, j'avais vraiment cru à ce projet, enfin au tout début, bien sûr, évidemment qu'après les années, voilà. Et donc j'attendais vraiment que ce projet naisse un jour.
En 2006, quand elle en parle et qu'elle en parle de façon très frontale, j'ai le scénario, c'est adapté, machin.
On y croit, on croit que ça va se faire.
Même jusqu'en 2009, quoi. Quand on sait effectivement les délais de cinéma. Donc voilà, c'est peut-être un projet qui reste dans sa boîte, comme dirait Mylène Farmer.
Allez, je vous propose une troisième et dernière séance. Alors là, vous allez éteindre les lumières, prendre un plaid et on va parler de Ghostland. Her latest book is Incident in a Ghostland. Open the door! And now, it's your turn.
Oh, baby, don't. Vera, don't listen to her, Beth. There's nothing left for you, Vera.
Your novel is a masterpiece. If you change even one word in that book, I will never speak to you again.
Tu devrais faire des bandes annonces.
On est dans l'ambiance.
Bastien, on va parler de Mylène Farmer, héroïne d'un film d'horreur, je crois.
C'est au tout début du mois d'avril 2016 que l'on apprend la participation de Mylène Farmer au prochain film de Pascal Laugier via un site spécialisé en cinéma d'horreur. La chanteuse confirme sa participation assez rapidement au magazine Le Point. Et ce n'est pas pour rien que cette information apparaît sur un site spécialisé sur les films d'horreur ou films de genre, car Pascal Laugier est un des plus grands, voire le plus grand ambassadeur de ce genre en France. Il fait ses débuts au cinéma aux côtés de Christophe Gans, réalisateur du Pacte des Loups, dont Laugier va réaliser le making-of. Et c'est en 2004 qu'il réalise son premier long-métrage, Saint-Ange, avec Virginie Ledoyen, qui place la comédienne dans l'univers inquiétant d'un orphelinat. Ensuite, en 2008, sort Martyr, qui va créer la polémique et qui menace même d'être interdit aux moins de 18 ans, tant le film est violent. C'est un peu comme ça que Pascal Laugier se fait remarquer avec ce film Martyr. En 2012, il travaille avec l'actrice américaine Jessica Biel sur The Secret. Et enfin, 2018, sort Ghostland au cinéma. Mais avant cela, en 2015, il réalise son tout premier clip pour une certaine Mylène Farmer. La chanson s'appelle City of Love. Et alors, je peux vous dire que Pascal Laugier vit sa meilleure vie sur ce projet. C'est un fan de la première heure de Mylène Farmer. Il raconte avec beaucoup d'enthousiasme son amour pour la chanteuse quand elle a débarqué et qu'il n'avait que 19 ans. C'était face à Chloé Valamari et Maxime Schucht pour le site Comme au cinéma.
Moi, toute mon enfance, il a fallu que je me tape Sardou, Claude François, Nana Mouskouri, tous ces trucs que j'ai jamais pu piffer, tu vois, et avec lesquels je me suis jamais réconcilié. Et tout d'un coup, il y avait cette nana là, incroyable, qui imposait au public français ce à quoi le public français était le plus réfractaire, c'est-à-dire le bizarre, l'étrange, la monstruosité, le gothisme, le baroque, tout ce que les Français en général détestent, elle l'impose. On se dit, enfin, l'industrie se dit, ça va être un truc d'un été, et 34 ans après, elle est toujours là. Donc, moi, j'ai une admiration sans borne. Et puis un jour, l'espèce de miracle, je reçois un coup de téléphone, c'était Mylène, qui connaissait mes films, qui m'a dit qu'elle les aimait beaucoup, et qui très timidement, comme si elle me demandait une faveur, m'a dit, est-ce que je sais que vous ne faites pas de clip, mais alors moi je lui ai pas dit, j'en fais pas parce que personne ne m'appelle pour en faire, ce que j'aimerais bien. Est-ce que vous voudriez bien faire mon clip? Et j'ai sauté de joie, je dis, mais évidemment, j'ai fait un clip pour elle, donc il s'appelle City of Love, qui était une proposition de fantastique pure, où Mylène a accepté de se transformer en bête monstrueuse tombée du ciel avec 7 heures de maquillage. Enfin, plus je travaillais avec elle, plus je voyais, au-delà de l'artiste, quel être humain incroyable elle était. Elle était tout ce que j'imaginais qu'elle était, mais en mieux. Tu vois.
C'est un très beau compliment.
Il est à fond sur Mylène, en tout cas.
Et cette affection, elle est réciproque, car Mylène Farmer ne va pas tarir d'éloges concernant Pascal Laugier, et c'est elle-même qui va demander à tourner dans le film de Pascal Laugier, comme elle l'expliquait dans le JT d'Anne-Claire Coudray le 11 mars 2018 sur TF1.
J'ai rencontré, moi, un réalisateur qui est exceptionnel. Je vais me permettre de dire, c'est un putain de réalisateur, vraiment.
Alors, il paraît que c'est vous qui êtes allé le chercher, ce réalisateur. C'est aussi vous lui avez écrit, et dites-moi si je me trompe, un petit SMS. Tu n'aurais pas un petit rôle de folle pour moi? C'est vrai. Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez?
Alors, d'abord, je l'ai appelé pour réaliser un clip. Et puis, bien plus tard, dans un moment, peut-être de je ne sais pas où, d'abandon, ou de détresse, ou de je ne sais quoi, de grand vide. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé un SMS, je crois, 2h du matin, et je lui ai dit, dis-moi, tu n'aurais pas un rôle de folle? Voilà, spontanément, il m'a dit, bien sûr, pas un rôle de folle, tu l'as déjà fait. mais j'ai un rôle pour toi, le rôle donc de Pauline, la maman de ces deux jeunes filles.
Le tournage de Ghostland se déroule à la fin de l'année 2016 au Canada, à Winnipeg, dans le Manitoba. Un tournage qui dure 40 jours et 40 nuits. Je vous laisse découvrir le superbe making-of présent sur le DVD, le Blu-ray du film. Il est vraiment très, très bon. Ghostland, c'est l'histoire de Pauline, interprétée par Mylène Farmer, qui hérite d'une vieille maison toute bizarre appartenant à sa tante. Elle part s'y installer avec ses deux filles adolescentes, Beth et Vera, qu'elle élève seule. À peine installée le premier soir, deux meurtriers très étranges pénètrent dans la maison et agressent Pauline et ses filles. S'ensuit une nuit traumatisante qui va hanter chacun des personnages. 16 ans plus tard, Beth est devenue une auteure reconnue dans la littérature d'horreur, tandis que sa sœur Vera est devenue folle et vit toujours chez sa mère. Inquiète, Beth rentre retrouver sa mère et sa sœur. Malheureusement, le cauchemar semble ne pas être terminé. Extrait de la bande-annonce.
Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel.
C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime.
Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Cette capacité à créer des univers bien à toi.
La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre?
Pour ne pas devenir dingue.
Vera?
Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là.
Tu vas me laisser mourir toute seule.
Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison.
Il n'y a personne ici. Il n'y a personne, tu entends?
Je sais ce que tu attends de ta sœur.
Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi.
Ghostland, un retour et un pari réussi pour Mylène Farmer?
Bah, moi, ça m'a beaucoup intrigué parce que voilà, on parlait de film d'horreur. Est-ce que c'est vraiment un film d'horreur, Ghostland? Je sais pas.
Film de genre.
Voilà, un film de genre. Ouais. Hein, parce qu'un film d'horreur, finalement, on met beaucoup de choses dedans et je pense pas que Ghostland, ça soit vraiment ça. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, même si j'ai été un petit peu perdu par toutes les questions de temporalité dans le scénario, dans le sens où il y a beaucoup d'allers-retours et ça m'a un petit peu perdu. Donc, ce qui fait que quand le film s'est fini, j'ai eu l'impression que quelque chose m'avait échappé.
Tu dis plusieurs allers-retours? Non, en fait, il y a un vrai gros twist à un moment dans un film, mais pour moi il n'y a pas beaucoup de... moi j'ai pas du tout été perdu parce qu'il y a un vrai retournement de situation à un moment et après c'est plus des rêveries vers la fin, mais
preuve
des...
que je me suis perdu, hein, voyez.
Ah bah moi aussi. Moi c'est pire que ça. Alors ils rigolent déjà tous autour de la table parce que
Ludovic qui nous a dit j'ai regardé Ghostland, j'ai rien compris.
Voilà.
Et en fait il avait pas compris qu'il avait compris.
C'est en faisant les jingles que j'ai vraiment compris et que j'ai vu comment c'était fait comme film, parce que alors, c'est vraiment pas le genre de film qui me touche. Tout ce qui est quand on tue, quand il y a la violence gratuite comme ça, déjà ça c'est un truc en fait qui me perd directement. Je dis mais pourquoi on les tue? Et avant Bastien, je trouvais trop bizarre Giorgino, il y avait beaucoup de bizarreries. Et dans Ghostland, je retrouve ça sans la touche humoristique qu'il peut y avoir dans tout ça et qui, moi, m'embarque. Alors que là, je prends que de la violence. Par contre, j'ai adoré les sons d'ambiance. Ils sont incroyables dans ce film. Il y a un vrai mixage formidable. Et surtout, Mylène Farmer, qui ne m'avait pas forcément convaincu dans Giorgino, là, elle a un travail de comédienne qui est superbe. Ouais, elle est d'une crédibilité, elle est brillante.
On veut un César, on veut un César.
C'est le mot qui est beaucoup ressorti dans les très bonnes critiques qu'a eu ce film. Emilienne Farmer, c'est le mot crédible en ce qui concerne son rôle, qui a un rôle secondaire mais qui est très important dans le film et qui est effectivement très bien interprété.
Ouais. On y croit au rôle de la mère un peu désabusée en train de boire ses bières devant, devant la télé. C'est limite anachronique tout ça, ce qu'elle regarde la télé sur une télé qui n'existe plus. Moi je trouve que ce film vraiment génial, elle m'a totalement convaincu. Je tiens à souligner aussi la performance des quatre actrices parce que du coup elles sont quatre à jouer deux rôles.
Oui, d'ailleurs on va les citer, il y a Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones et Taylor Hickson.
Moi c'est ça qui m'a perdu, tu vois, par exemple voilà, quatre actrices pour deux rôles
et les deux types bizarres, ils sont vraiment très très bizarres aussi.
La maison, je trouve le décor, je trouve que tout a été très bien choisi.
Qui n'est pas un décor,
une maison qui existe exactement. La lumière est très belle, ce film est pour moi un aboutissement dans ce qu'il a fait, vraiment c'est très très bon et j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer, surtout hâte de voir Mylène dans un autre rôle.
Moi je suis pas du tout familier de ce genre de cinéma, donc ce qui va me gêner un peu dans le film c'est tout ce qui est lié à ce genre là, c'est-à-dire 35-40 minutes de on se court après, on crie, voilà.
Ouais, donc, ça c'est dur. Hein,
donc ça c'est des choses.
Pareil.
Mais du coup avec ce biais là de Pascal Laugier qui est un grand réalisateur qui fait ça avec énormément de soin, énormément d'esthétisme, enfin on n'est pas étonné de l'enthousiasme qu'il a par rapport à Mylène Farmer et Laurent Boutonnat parce qu'on sent une vraie filiation d'univers, un vrai mariage, tout est cohérent. D'ailleurs, la toute première image de Ghostland, c'est du Laurent Boutonnat.
C'est
complètement gratuit parce que c'est, on voit un enfant avec un chapeau, on dirait qu'il est sorti du voilà.
C'est un clin d'œil.
C'est un trait d'union entre les deux films. J'ai découvert du coup un cinéaste, Pascal Laugier, qui est extrêmement précis, extrêmement soigné dans sa mise en scène. Donc moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé ce que disait ce film. C'est une espèce de dualité entre la réalité et le cauchemar en fait. Est-ce qu'il y a de la réalité dans le cauchemar? Est-ce qu'il y a du cauchemar dans la réalité? Moi j'ai beaucoup aimé cette ambiguïté là.
Comment sont construits les cauchemars avec tout ce qui nous entoure?
Ça c'est vrai. Voilà, ça m'a plu aussi.
Il y a une scène qui m'a vraiment troublé, qui pour moi me rappelle, oserais-je dire, la perversité de Laurent Boutonnat et Mylène Farmer, c'est la scène avec les poupées. C'est flagrant que c'est.
Tu veux dire la scène où le grand méchant voilà prépare la fille en poupée.
Exactement.
Elle est dure cette scène parce qu'il n'y a pas de, dialogue, elle prend son temps en plus, il y a une vraie tension.
Et pour moi, on retrouve la filiation que peut avoir le Pascal Laugier envers le duo Farmer et Boutonnat. C'est pas explicable.
C'est exactement la poupée de sans contrefaçon finalement. Et tu parles de filiation, Pascal Laugier, quand il a sorti Saint-Ange, il expliquait que Giorgino avait été aussi une source d'inspiration. Donc oui.
Ghostland, c'est d'abord une vraie rencontre artistique, voilà, comme on l'a déjà dit. Il y a une filiation d'univers entre Mylène Farmer et Pascal Laugier. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que elle n'est pas Mylène Farmer dans le film.
Oui.
Contrairement à Giorgino, où voilà, c'était Mylène Farmer, c'était le prolongement des
clips. On ne peut pas s'empêcher de la voir. Ouais.
Voilà, c'est une mère célibataire à l'extrême opposé de son personnage d'éternel femme-enfant. Voilà. Mais qui évolue totalement dans le monde de Mylène Farmer. On reste avec les codes, on reste avec l'univers, mais avec un vrai rôle. Non pas que Catherine n'était pas un vrai rôle, mais il y a un vrai travail de comédienne, je trouve, qui va chercher quelque chose d'autre. Oui, quoi. Oui. Et c'est en ça que pour moi, c'est un très bon choix artistique et que c'est une réussite, d'autant que le film est très bon.
Et il dure 1h25.
C'est appréciable.
Voilà. À noter que le film va avoir un très bon accueil critique, comme je vous le disais tout à l'heure. Il va être présenté au Festival du film fantastique de Gérard Mer, où il va rafler trois prix, le grand prix jury, le prix du public et le prix du jury sci-fi. Au box-office, on compte 249 000 entrées en France et 1 500 000 dans le reste du monde. Je vous rappelle qu'on est sur du cinéma de genre, donc ce sont des chiffres tout à fait honorables, je crois.
Tout à fait.
Et pour la promotion du film, une grande avant-première a été organisée au Grand Rex à Paris, en présence de Pascal Laugier, des actrices Emilia Jones, Crystal Reed et Mylène Farmer, et c'était une ambiance comme dans un concert. Pascal Laugier arrive sur scène, puis les deux actrices, et dès qu'arrive Mylène Farmer, le Grand Rex explose. Vous entendez, c'était la folie avec Thibaut, on y était, et c'est vrai que
on était tous les deux,
et le Grand Rex était en feu.
C'était que des fans, et puis la première apparition publique de Mylène Farmer en face de son public depuis Timeless.
C'était un concours, c'était quoi?
C'était une billetterie.
En plus, les actrices américaines, du coup, se rendaient compte
de la popularité
de l'ampleur de Mylène Farmer. C'est bien simple, à un moment, à peine elle a dit bonsoir, et là, pareil, ça a re-explosé.
Moi j'y étais aussi et je pense que vu la tête qu'ont fait effectivement les deux jeunes filles à ce moment-là, je pense qu'elles ont vu, elles s'entendaient pas à ça. Quoi.
En interview, la plus jeune actrice, Emilia Jones, disait justement... Pascal Laugier m'a dit, c'est la Madonna française.
Deuxième partie de ce hors-série Mylène Farmer et le cinéma, on va s'intéresser maintenant à la musique, place aux bandes originales. première bande originale pour Mylène Farmer avec l'histoire d'une fessée, et on en parle avec Thibaut.
Oh, très joli jingle déjà, Ludovic.
Ah, oui, très très bien, très joli. Merci. Oui,
bah
oui.
Bah, on revient en 2000, hein. Moi en 2000 j'ai 10 ans et j'ai deux passions, Mylène Farmer et l'Erasmo Kett. Ah. Et aussi incongru que ça puisse paraître, et bah, ces deux univers se rencontrent à ce moment-là et donnent naissance à une chanson, l'histoire d'une fessée. Mariage qui surprend, car c'est la première fois que Mylène Farmer propose un titre inédit pour une bande originale. 4 ans plus tôt, elle avait cédé les droits de Sans Contrefaçon pour le film Pédale 12, mais on vous en avait déjà parlé. L'histoire commence au printemps 2000. Mylène Farmer vient d'achever sa tournée Millennium Tour. Elle vient de faire la rencontre de la jeune Alizée et elle est parallèlement contactée par George Acconi, directeur artistique américain qui travaille sous la supervision de la bande originale de la deuxième adaptation ciné du célèbre dessin animé. Et son choix se porte sur Mylène, car la nouvelle aventure de Casse-Bonbon, Labinoc et Couette-Couette se déroule à Paris.
Et les grumeaux diffusés tous les jours sur France 3,
c'était super,
le matin, le soir, etc. Ah ouais. Et il y avait une vraie génération Razmoquette.
Il y en a une. Voilà.
Il fallait une chanteuse française au casting, et qui mieux que la numéro 1. Mylène Farmer était présente à l'avant-première américaine du film à Los Angeles le 5 novembre 2000. Elle avait d'ailleurs répondu au micro de Canal J.
Bonjour Canal J. Comment tu t'es retrouvée à travailler sur ce film?
J'ai rencontré une personne qui s'appelle George Cogni et qui est en charge de la musique de ce cartoon.
Est-ce que tu as aimé ton expérience ?
Est-ce que j'ai aimé mon expérience ? Beaucoup.
Alors, si le single est sorti en France le 27 février 2001, parallèlement à la sortie française du film, il s'agit aussi du premier leak sur Internet de la carrière de Mylène Farmer.
Bah oui.
Car la chanson s'est changée déjà entre fans dès l'été 2000, avant d'être disponible sur la version américaine de la bande originale au mois de novembre.
J'ai pas vu le film, mais j'avais vu la scène. C'est hyper bref le moment où on entend cette chanson
dans
le film.
Aéroport, qu'on n'entend pas vraiment
on
d'ailleurs.
On l'entend même pas vraiment. C'est une
elle est sous
de
des
fond.
Bruitages. Ouais. Ouais.
C'est anecdotique quoi.
Voilà.
Oui,
oui. Un single qui ne bénéficiera d'aucune promotion, mais qui se classe tout de même 9e au top single et qui s'écoule à près de 75 000 exemplaires.
C'est pas mal.
Joli petit single en digipack. Moi j'avais bien aimé, c'était joli.
Oui.
Moi j'avais découvert le titre dans les mots en fait, hein, dans le best-of. Hein. Moi j'avais pas du tout entendu parler de cette chanson avant.
Ah, moi je l'avais entendu à la radio, j'avais même acheté le single parce qu'elle était disponible nulle part.
Vous l'avez déjà montré dans les démos de ça, c'est quelque chose qui est assez parent de C'est une belle journée, on est dans cette mouvance-là.
On est dans une ambiance qui est autant spéciale dans les couplets, parce qu'elle est spéciale l'ambiance des couplets, que très très naïve dans les refrains.
J'adore sa façon de chanter justement sur les couplets.
Très optimistique moi comme couplet. Moi j'adore l'instrumental de cette chanson. Ah, il y a des petits sons électroniques partout.
Je trouve ça vraiment très très bon. Et l'instru est sur le single je crois.
Oui.
Moi j'écoute des fois juste l'instru et moi.
Oui parce qu'on s'amuse. C'est une chanson qui est très amusante en fait, qui va bien avec le fait de faire un film pour enfants.
Mais avec un texte à double sens pour enfants et adultes. Et là on adore toujours cette ambiguïté entre les
exactement.
Deux.
Exactement.
Voilà.
Comme toutes les grandes comptines d'ailleurs.
Il aura fallu attendre le 3e long métrage de Laurent Boutonnat pour entendre Mylène Farmer sur la bande originale et ça sera fait avec Jacques le Croquant et devant soi. Thibaut.
Bah oui, mais alors là, hop, on fait un fast forward et on est maintenant en 2004. Et alors que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat travaillent sur leur 6e album Avant que l'ombre, ce dernier prépare parallèlement la production de son nouveau long métrage, une adaptation du roman d'Eugène Leroy, déjà adapté à la télévision à la fin des années 60, Jacques le Croquant.
Vous n'aviez pas un autre projet cinéma aussi
plus qu'un projet, c'est un film qui est en préparation aujourd'hui et qui se tournera en mars prochain.
On peut savoir le sujet
C'est une adaptation, une vraie adaptation d'un roman du 19e siècle qui s'appelle Jacques le Croquant. Voilà.
J'ai pris l'extrait juste parce qu'elle rigole. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle pensait en fait ? C'est un nouvel extrait de la conférence de presse de décembre 2004. Un projet sans Mylène Farmer, mais un peu quand même, les deux artistes étant extrêmement liés. Hein. Je cite une interview de Laurent Boutonnat pour Téléstar. Avec Mylène, j'ai l'habitude de dire qu'on est nés ensemble. Aujourd'hui, elle est devenue pour moi comme une sœur, tant sur le plan artistique qu'affectif.
Oh, wow.
C'est ainsi qu'elle signe le générique de fin du film avec une chanson inédite devant soi.
Je l'ai saigner cette chanson.
Je l'adore, ah, oui, vraiment. La mélodie des couplets, elle est superbe. C'est le thème d'ailleurs de Jacques-Coule Croquant.
Oui, oui.
Et non, je sais pas, elle a un truc de magique.
Il y a toujours le côté un peu sombre dans la musique, moi, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus, c'est sorti pile à un moment où voilà, on avait terminé les concerts d'Avant que l'ombre à Bercy, etc. Donc elle arrivait pile pour nous donner une petite friandise, oui, pendant l'année 2007. C'était vraiment bienvenu et moi, j'ai beaucoup aimé ce titre.
Moi aussi.
Elle arrivait surtout après l'album Avant que l'ombre. Et ouais, moi, je me souviens quand j'ai découvert le titre, j'étais content en fait d'avoir une chanson rythmée, on va dire, et
un peu plus dynamique.
Un peu plus dynamique, ouais. Voilà, un peu plus dynamique. A posteriori, aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est aussi les prémices d'une production, on va dire, homemade de Laurent Boutonnat, qui va prendre son ampleur sur les deux albums qui suivront avec lui, c'est-à-dire Point de Suture et Monkey Me.
Moi, c'est le même sentiment que Thibaut, dans le sens où, pareil, elle est arrivée après Avant que l'ombre, et j'ai exactement eu le même sentiment que toi, où je me suis dit, je retrouve une chanson aérienne aussi dans la voix, on retrouve un peu les aigus d'Inamoramento, et j'étais vraiment très content de retrouver ça, et c'est une chanson que j'aime vraiment bien.
Comme Giorgino, Laurent Boutonnat a évidemment composé la bande originale de Jacques-Coule Croquant. Tu peux nous en parler un peu, Clément ?
Oui, parce que cette bande originale, elle respecte le cahier des charges, hein, d'une bonne bande originale. C'est-à-dire qu'elle contient des thèmes qui chacun vont correspondre à un personnage, à une situation ou à un lieu, et qui vont être déclinés sur plusieurs ambiances et sur plusieurs tonalités. C'est un vrai travail de composition, mine de rien, parce qu'il faut que inconsciemment, chez le spectateur, quand on entend la musique, ça évoque immédiatement quelque chose. Avec quelques notes, le spectateur, il doit savoir immédiatement que l'action, elle va tourner autour de tel personnage ou qu'elle va se passer dans tel lieu, par exemple. Et Boutonnat, vraiment, il le réussit à merveille dans cette bande originale. Une bande originale, bon bah, c'est une grammaire en soi, et Boutonnat, il y apporte sa propre grammaire par-dessus. Il faut dire qu'il a réalisé plus de chansons de variété que de bande originale. Oui. Donc il va demander à Nick Rain, qui est le chef d'orchestre de la bande originale, quelque chose de tout à fait inhabituel. C'est-à-dire que normalement, pour l'enregistrement d'une bande originale, tous les musiciens sont réunis dans le même studio, ils jouent simultanément sous la direction du chef d'orchestre. Et là, Laurent Boutonnat, il a souhaité appliquer sa méthode de fabrication, qui est celle des disques de variété, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que chaque partie soit enregistrée séparément. Donc par exemple, les violons d'un côté, les cuivres de l'autre, les vents à part. Et en fait, si on écoute attentivement, ça se ressent vraiment à l'écoute.
Parce qu'il les a mixés d'une certaine manière.
Exactement. Et ça se ressent même, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais juste que dans le triangle, par exemple,
oui,
sur l'ouverture,
vraiment,
l'entend que c'est vraiment mixé.
C'est beaucoup plus isolé, en fait.
Exactement.
C'est beaucoup plus spatialisé.
Et c'est un travail tout à fait inédit pour Nick Rain. Alors moi, je trouve que pour moi, il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que ce qu'on gagne peut-être en efficacité, on le perd aussi en authenticité.
Mais c'est fait surtout pour les mixages 5.1 et les choses comme ça, non ? C'est peut-être.
On peut s'en servir pour ça. Oui. Quand on fait une prise de son comme ça, c'est plus une prise de son globale. La prise de son globale apporte la puissance d'un orchestre, alors que là, on la ressent beaucoup moins.
C'est vrai.
Un mot rapide sur le film Jacques-Coule Croquant. On sent que là, par rapport à Giorgino, Laurent Boutonnat a fait un film beaucoup plus accessible au grand public.
Oui.
Il a dû être bien aiguillé, bien orienté par la société de distribution. Et
puis une histoire populaire. Il a été chercher une histoire qui a eu un succès à une certaine époque.
Oui. Ouais. Le film a beaucoup plus marché en province qu'à Paris.
Ouais. 1 million d'entrées, c'est ça ?
936 000 à peu près. Voilà.
Et la petite histoire, c'est que ça devait être deux films normalement, La Jeunesse et après. Il se trouve que Laurent Boutonnat a tout tourné, mais que le distributeur forcément lui a dit non, ce sera un seul film.
Il était prêt à répéter certaines erreurs.
Voilà. Et c'est là qu'on sent qu'il est vraiment incorrigible. Hein, parce que
c'est un artiste.
C'est un artiste.
Je les entends d'ici, ils reviennent de Prague, ils sont en train d'accorder leurs instruments pour nous parler de la musique de Laurent Boutonnat. Voici les démos de Clément et Ludo.
Voilà les démos de Clément et Ludo.
Oh là là, wow. On voyage avec moi.
Laurent Boutonnat est incorrigible, toi aussi Ludo.
J'avais envie de vous mettre dans l'ambiance cinéma tout de suite pour entrer dans la rubrique. On va parler d'abord des sons d'ambiance. On est en 94. Laurent Boutonnat, comme je vous l'ai dit, il en met partout dans son film Giorgino. Et ce sont des sons qui sont totalement familiers, qu'on retrouve dans pas mal de clips de Mylène Farmer. On a dès la première seconde du film, October 1918, ce son-là.
Ah bah oui.
C'est le même que dans Libertine.
Ah ouais.
Voilà. Et le même que dans Plus grandir. Et en fait, c'est tout simplement un son de basse qu'il utilise de manière très singulière.
Il y a un autre son d'ambiance que tout le monde connaît, c'est celui-ci.
Oui, l'horloge.
Bah oui,
voilà,
oui.
On vous met l'horloge. Les mêmes sons.
Alors, écoutez ce son d'ambiance. On le retrouve presque pareil dans le Chaos Mix de Désenchanté.
Ah oui,
c'est pratiquement le même.
Voilà, on est parti dans l'ADN des années 90. Mais bon, il n'y a pas que moi qui fais des jingles. Laurent Boutonnat aussi, il fait des jingles.
Ah ouais ?
Eh ben oui, le jingle de sa société de production, Heathcliff. Écoutez, ces sons-là. Ils sont dans Nous Souviendrons-Nous, en fait.
Bah oui, ouais.
Ah. Heathcliff, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même très important dans la conception de Giorgino. C'est le héros du roman Léo de Hurlevent de Emily Brontë, Wuthering Heights. Il y a plein de références, c'est-à-dire que le personnage dit cette phrase qui revient souvent dans le roman, « Will never die ». Will Never Die, qui est une chanson du premier album de Mylène Farmer, dont le texte est aussi écrit par Laurent Boutonnat.
Et Giorgio dit cette phrase à Catherine dans Giorgino.
Exactement. Le personnage féminin de Giorgino s'appelle Catherine, comme dans le roman d'Emily Brontë. Puis il y a eu une adaptation cinématographique de ce roman en 1939 par William Wyler, qui a inspiré une jeune chanteuse, Kate Bush, qui elle-même a inspiré Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. On s'écoute son Wuthering Heights. Ça, c'était gratuit, hein. C'est parce que c'est toujours bon d'écouter Kate Bush et cette fabuleuse chanson. Hein.
On te suit à 100%.
Maintenant, je vais vous parler du thème de Giorgino. Vous voyez, déjà, c'est déjà magique. Quoi. Ouais. Écoutez juste ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ?
Ah oui ! Non. C'est Libertine.
C'est Libertine en 96, écoutez.
Ah oui, mais oui, Libertine sur Live à Bercy.
J'enchaîne les deux. C'est la même chose.
C'est dingue. Ah ouais.
Et on va retomber sur Giorgino quand même.
C'est drôle.
Et maintenant, on va passer sur le film Jacou. Hein, le film Jacou le croquant. Écoutez ces accords. Qui sont très très beaux, je trouve. Alors, c'est pas Royal Canin. Hein.
C'est ça, on dirait le professionnel.
On écoute bien les accords, on se laisse emporter par la musique. Si vous êtes à la maison, fermez les yeux.
Ferme les yeux.
Si vous êtes en voiture, ouvrez les yeux. Et vous allez entendre arriver une chanson de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat.
Alizé ?
Ouais, c'est Veni Vidi Vici. Et il y a la même utilisation de la clarinette.
Alors, je ne fais plus la différence entre...
Les deux sont vraiment semblables, quoi.
Et oui.
On adore cette chanson.
Je l'adore.
Et puis maintenant, on va faire chanter Alizé sur l'orchestre. C'est là que veille
maman, j'entends. Oh, ouais.
C'est beau, hein. Les cloches de la ville, vive le vent, Veni, Vidi, Vici. Puis avec Clément, on vous a préparé quelque chose.
Oh.
Alors, vous savez que dans la bande originale de Jacou le croquant, donc composée par Laurent Boutonnat, il y a un thème musical récurrent, c'est la mélodie de la chanson du générique, Devant Soi. Ici, si vous entendez, elle est jouée au piano. Hein. Mm-hmm. Alors, on va enlever la mélodie du piano, comme ça on garde que la phrase musicale qui est jouée par les cordes. C'est beau, hein. Franchement, on adore.
Ah ouais, super. Hein.
En fait, ce qu'on entend là, c'est les accords d'une chanson de Mylène Farmer qui est très très différente.
Oh là là.
Qu'est-ce que Sébastien ?
C'est parti.
Mais c'est cuit !
Ah !
Écoutez comme c'est joli avec un orchestre.
Et puis bah, on peut remettre la mélodie du piano de Devant Soi par-dessus.
Oh, ça se marie.
Ouais, c'est beau, hein.
Mais oui, ça se marie parfaitement, bah, à tel point qu'on peut mettre le refrain de QI.
J'adore.
Petite version symphonique.
C'est beau, hein.
Bah ouais.
Et puis bon, vous nous connaissez, on aime bien faire ça. Donc, on va inverser. On va mettre Mylène qui chante Devant Soi sur l'instru de QI cette fois.
Incroyable. Oh là là,
c'est beau, hein.
C'est vrai.
Ah, j'aime bien.
Et ça marche aussi, évidemment, bah, avec le piano et les cordes qu'on a entendu au début.
Génial. Oh,
Oh, c'est super,
c'est beau, bravo.
Ouais, ça marche vachement bien.
C'est un peu une démonstration de ce qu'est l'ouverture d'esprit musical. On peut mélanger la variété, on peut tout mélanger, le synthétique, l'électronique et le symphonique. Quand on aime la musique, on aime
toutes les musiques.
Bravo. Merci Clément, merci Ludo, on va passer à la fin de l'épisode.
Shut that water off. No! Madness is madness. I am
Barbara. Tell me who did this to you.
A witch. And an ogre.
J'ai pas envie de jouer, Vera.
You lied. No one will ever hurt you again. We'll be happy, Catherine. We'll never die.
On n'a pas envie de parler.
Et pourtant, on va quand même parler pour savoir ce que vous pensez de Mylène Farmer au cinéma, le dernier tour de table de l'épisode. On va commencer avec Bastien.
Oui, bah, comme je vous disais en introduction, moi, c'est pas quelque chose que j'attendais beaucoup, Mylène Farmer au cinéma. Et en fait, mon intérêt pour cette dimension de sa carrière est allé crescendo un peu comme sa carrière. C'est-à-dire qu'au début, on a ce Giorgino un peu mystérieux qui, pour moi, c'était un peu une légende pour moi, Giorgino. Donc, je l'ai découvert que tardivement. Après, dès que j'étais adolescent, il y avait ce projet L'ombre des autres, il y avait les Minimoys. Donc, moi, je commençais à avoir une petite curiosité. Et puis, alors, Ghostland est arrivé. Alors là, c'était vraiment crescendo, quoi. J'ai trouvé voilà, il y a eu un... C'est vraiment bien qu'il y ait eu ce Ghostland qui arrive derrière pour réassurer les choses. Donc moi, j'ai envie de dire, il faut que ça continue. Moi, j'aimerais beaucoup voir Mylène Farmer au cinéma encore. J'aimerais beaucoup la voir en français, parce qu'elle n'a joué qu'en anglais jusqu'à présent.
Tiens, c'est vrai, c'est curieux.
Ou doubler des personnages. Enfin, j'aimerais vraiment beaucoup voir Mylène Farmer au cinéma dans la langue de Molière, comme on dit, et que peut-être continuer aussi à nous offrir des clips comme elle le faisait avant.
Clément.
Bah moi, ce qui me plaît dans ce côté-là de sa carrière, c'est que si on regarde rétrospectivement, elle a tout connu. Elle a connu avec Georgina. Bon, bah, la première tentative, hélas, l'échec. Avec les Minimoys, c'est le succès, on va dire, le succès commercial, familial aussi. Et puis avec Ghostland, le succès critique. Donc vraiment, le tour complet dans le domaine. Donc chapeau.
Ludo.
Moi, je vais faire en deux temps. Hein. Giorgino, j'ai pas adhéré forcément à Mylène Farmer parce que il y a ce défaut d'être Mylène Farmer dans le film. Mais le film, lui, je l'aime de plus en plus, sûrement aussi parce que la musique a une place très importante. Et puis parce que j'aime la contemplation.
Il faut.
Hein. Ah, ouais. Ghostland, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, j'ai pas forcément adhérer au style du film, mais j'ai trouvé Mylène Farmer épatante dans son rôle et simplement ça m'a donné envie de la voir dans une comédie parce que je crois que c'est vraiment quelqu'un de taquin, d'espiègle et qui pourrait vraiment avoir un rôle drôle au cinéma et
je pense
cette
aussi,
fois-ci
ouais.
Là j'y vais. Voilà.
Ouais, complètement.
Un film d'Edouard Baird.
Ah bah pourquoi pas.
Elle a été très amie avec quelqu'un comme Jean Rochefort qui est très fantaisiste, tout ça, voilà. Donc on l'imagine très bien dans ce genre de
des
film.
Des absurdes érudits.
Voilà.
Oh. Thibaut.
J'aurais envie de dire plus un à la conclusion de Clément que je trouve très bonne. Si je donne un point de vue peut-être différent, je dirais que Mylène Farmer dans une comédie, voilà, comme tu disais, oui, mais je vais être un peu défaitiste, j'ai l'impression que ça va être très compliqué à faire parce que j'ai l'impression qu'elle souffre du même syndrome qu'une Madonna par exemple, c'est-à-dire des artistes qui ont des univers qui sont tellement forts, visuellement tellement codés, qu'on a du mal à les mettre dans autre chose. Et ce qui, je pense, ne lui permet pas d'avoir deux carrières de front. Je vais faire un parallèle avec des artistes qui arrivent à faire les deux, qui sont pour moi Patrick Bruel et Vanessa Paradis, qui sont des artistes qui n'ont pas un univers visuel aussi fort dans leur carrière musicale.
Qui ont commencé leur carrière au cinéma très tôt,
en même temps. Et qui arrivent à être, j'allais dire, crédibles aux yeux du milieu du cinéma.
Qui sont bien sûr des producteurs et des réalisateurs.
On arrive à leur confier les rôles. Mylène Farmer, elle reste dans ce carcan de la fille bizarre. Mais elle peut tout à fait jouer autre chose, quoi.
Mais tu sais que Pascal Laugier raconte que même dans ce genre, film un peu de genre, pas tout le monde était convaincu dès qu'il a annoncé son nom. Oui. Heureusement, il avait son distributeur avec lui, mais il raconte bien que ça n'a pas été facile de vendre le nom de Mylène Farmer au casting de ce film. Hein.
Mais
il
c'est
a vraiment...
comme Johnny au cinéma. C'est pareil. Hein. La figure est tellement forte au niveau populaire que c'est toujours difficile d'effacer ça.
Bon, alors moi, qu'est-ce que je peux rajouter avec ce que vous avez dit? Elle peut jouer autre chose maintenant. Elle peut jouer autre chose que Giorgino. Elle l'a montré avec Ghostland. Je l'attends vraiment, moi, sur autre chose. Parce que je pense qu'elle peut avoir vraiment une très belle carrière au cinéma maintenant et qu'elle peut se lâcher, qu'elle peut faire des choses. Tu disais, Thibaut, que peut-être que personne ne peut l'envisager vu la force qu'elle peut avoir, l'imagerie forte qu'elle a. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et pas forcément dans les premiers rôles, là, comme Ghostland. C'était très très bien qu'elle soit pas la tête d'affiche et qu'elle puisse s'amuser, qu'elle puisse
s'exprimer
autrement. Et je pense que le moment est venu.
Voilà.
C'était un épisode hors série, histoire de Mylène Farmer au cinéma, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même, et réalisée
par Ludo.
Vous pouvez retrouver toutes les infos, les références et les autres épisodes sur notre site histoire2mf.com, histoire
avec un S.
Générique de fin, fond noir, salut.
Au revoir.
Chut.
histoire de...